Bonjour à chacun, à chacune. Vous l'avez entendu, il y a nos frères Michel et André qui sont à la prison pour un culte. On peut penser aussi à une partie de l'équipe qui prépare un camp pour cet été avec les flambeaux. Voilà, il y a les malades, bien évidemment aussi. Il y a les vacanciers sur le retour. On veut penser à cela. C'est un privilège ce matin de continuer d'ouvrir la parole de Dieu pour nous laisser enseigner par le Seigneur. Ce matin, on continue dans cette série de la lettre aux Corinthiens qui nous appelle vraiment à être différents. Et on est précisément dans une partie où Paul nous enseigne, nous encourage concernant la liberté. On lui a posé une question, les Corinthiens lui ont posé une question, et Paul répond. Est-ce qu'on est libre de tout faire? Il est question de la liberté. Et c'est vrai que la question de notre liberté, c'est une des, peut-être des aspects les plus profonds de notre vie chrétienne. Comprendre, vivre cette liberté que nous avons en Christ. On vit dans une société qui constamment nous encourage à quoi ? À revendiquer nos droits. À nous battre pour ce qui nous appartient légitimement. J'ai des droits. Et on le voit, on l'a vu avec la lettre de 1 Corinthiens, Paul nous montre un tout autre chemin. La liberté chrétienne nous invite à nous restreindre de façon volontaire, à renoncer pour le bien des autres. À renoncer pour le bien des autres. Il y a deux semaines, Matthieu nous avait introduit dans ce chapitre de 1 Corinthiens 8 avec la question des viandes sacrifiées aux idoles. On avait vu ce principe qui est complètement à contre-courant. Renoncer à sa propre liberté volontairement en considérant l'impact de nos choix, de nos libertés sur les autres, de considérer l'autre. Et l'exemple était, je préfère, Paul parlait de ces viandes sacrifiées aux idoles, il montre qu'il est plus important de considérer la conscience des autres que de revendiquer ses droits à en manger de cette viande en sachant que c'est un tarif avantageux de manger cette viande ou que, voilà, on sait bien qu'il n'y a pas d'autre Dieu, donc il n'y a aucun sens derrière cela, mais Paul a dit, si ça doit être une occasion de chute, je m'abstiens. C'est là le principe de liberté, mais pour le bien de l'autre. Et ce matin, Paul va l'illustrer avec son propre ministère. Il va l'expliquer, ce principe, en se prenant, en exemple, on pourrait dire. Mais d'abord, je voudrais un exemple, un autre exemple plus concret. Imaginez une situation simple, pour ceux qui travaillent, un collègue avec qui vous avez souvent eu des désaccords. Vous êtes souvent en conflit, il n'y a souvent pas d'accord. Et il vient vous demander un service. Vous avez tout à fait le droit de refuser de venir l'aider. Après tout, il n'a pas été respectueux envers vous. Et d'ailleurs, vous avez même l'impression que ça pourrait même vous désavantager de le servir ou de l'aider. Mais là, vous décidez d'agir autrement. Vous décidez de répondre positivement. Non pas parce qu'il le mérite, mais parce que vous voulez lui témoigner un tout autre regard. De l'amour, de la grâce. Vous renoncez à votre droit de lui rendre l'appareil, à suivre vos émotions ou à agir en fonction de vos intérêts. Vous agissez dans le but de lui témoigner de la grâce et de l'amour. Et c'est exactement ce que Paul est en train de dire dans cette lettre de Corinthiens, dans la section qu'on est en train de voir. Je considère l'intérêt de l'autre plus important que ma liberté, plus grand que mes droits. La question n'est pas tant par rapport à la liberté. Est-ce que je peux faire ceci ou cela? Est-ce que ma vie chrétienne le permet? Non, mais est-ce que je peux honorer ou glorifier Dieu davantage dans mes actes? Ou est-ce que ça va être quelque chose qui va blesser, déranger l'autre? Oui, j'ai une liberté. Oui, j'ai des droits. Mais j'ai une responsabilité envers les autres. Alors, je vous propose d'aller prendre ce chapitre de 1 Corinthiens 9, de le lire ensemble et de voir comment Paul continue dans cette idée de voir l'autre beaucoup plus important que soi, et il va utiliser, comme je l'ai dit, son ministère ministère d'apôtre pour le démontrer. Chapitre 9 de 1 Corinthiens. Ne suis-je pas libre ? Voyons la liberté. Ne suis-je pas apôtre ? N'ai-je pas vu Jésus-Christ, notre Seigneur ? N'êtes-vous pas, vous, mon œuvre dans le Seigneur ? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes l'empreinte qui authentifie mon service en tant qu'apôtre dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger ou de boire? N'avons-nous pas le droit d'emmener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme le font les autres apôtres, les frères du Seigneur et Céphas? Ou bien sommes-nous les seuls, Barnabas et moi, à ne pas avoir le droit de ne pas travailler? Qui donc sert dans une armée à ses propres frais? Qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui prend soin d'un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Est-ce purement d'un point de vue humain que je dis cela? La loi ne le dit-elle pas aussi? En effet, il est écrit dans la loi de Moïse, « Tu ne mettras pas de muselière au bœuf quand il foule le grain. » Dieu s'inquiète-t-il des bœufs? Ou bien est-ce principalement à cause de nous qu'il parle? Oui, c'est à cause de nous que cela a été écrit. Car celui qui laboure doit labourer avec espérance. Et celui qui bat le blé doit le faire avec l'espoir de recevoir sa part. Si nous avons semé pour vous les biens spirituels, est-ce trop si nous récoltons une part de vos biens matériels? Si d'autres exercent ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons pas recouru à ce droit. Au contraire, nous supportons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui assurent le service du culte sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel reçoivent une part de ce qui est offert sur l'autel? De même aussi, le Seigneur a prescrit à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Quant à moi, je n'ai eu recours à aucun de ces droits. Et je n'écris pas cela pour que cela me soit accordé, car j'aimerais mieux mourir plutôt que de me laisser enlever ce sujet de fierté. Si j'annonce l'évangile, il n'y a pour moi aucun sujet de fierté, car c'est une nécessité qui m'est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense, mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, sans faire usage de mon droit de prédicateur de l'évangile. En effet, bien que libre vis-à-vis de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les juifs, j'étais comme un juif afin de gagner les juifs. Avec ceux qui sont sous la loi de Moïse, comme si j'étais sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans la loi, comme si j'étais sans loi, bien que je ne sois pas sans la loi de Dieu, puisque je me conforme à la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Et je fais cela à cause de l'Évangile, afin d'avoir part à ses bénédictions. Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations et le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Moi donc, je cours, mais pas comme à l'aventure. Je boxe, non pas pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Beaucoup de choses dans ce texte. Peut-être que vous n'avez pas tout compris, mais on va essayer de le comprendre ensemble et de voir aussi qu'est-ce que ça veut nous dire pour nous. En fait, la grande question qui doit nous poser ce matin, c'est: est-ce que je suis prêt à renoncer à mes droits par amour pour l'autre, par amour pour l'avancement de l'évangile, de la bonne nouvelle dans ce monde, dans le royaume de Dieu? Et Paul, avec son propre ministère, il met la barre haute, on pourrait dire, mais je trouve, il nous donne un modèle à suivre. Il fait le choix de renoncer à certains de ses droits et de nous montrer que l'amour pour les autres est beaucoup plus important. Et c'est ce que Dieu veut nous inviter à méditer, je crois, avec ce texte. Je tenais comme titre liberté, au service de l'amour. Et voilà comment je résume simplement ce qui est dit. Bien que je dispose de droits légitimes, je choisis d'y renoncer par amour pour les autres et pour l'évangile. Bien que j'ai des droits qui sont légitimes, bien que j'ai des droits, je choisis d'y renoncer par amour pour l'autre et pour l'évangile et pour la bonne nouvelle. Alors un premier point que j'aimerais souligner dans ce texte, on voit que Paul présente, reconnaît les droits des serviteurs de Dieu. On voit ça des versets 1 à 14. de reconnaître les droits. Et Paul parle ici de son ministère. Il parle pas juste pour se défendre, parce que dans la lettre de 2 Corinthiens, il va se défendre contre ceux qui se disent « Oh, Paul est pas vraiment apôtre, bon, certains avaient du mal avec son autorité ». Non, il le fait pas dans ce passage, précisément, mais il veut surtout montrer à cette église comment il a vécu son ministère dans cette église. Sa façon de vivre. Et sa façon de vivre devient une démonstration de ce principe qui vient de dire « Je renonce pour votre bien ». Et c'est ça qui est beau. Il ne parle pas simplement de son rôle, de la manière dont il a exercé des Corinthiens. Paul défend ses droits dans ce passage. Reconnaissez les droits qui me sont dus. Ce droit de recevoir du soutien, ce droit d'être payé, d'avoir une compensation parce que je vous ai prêché l'évangile, son droit de réclamer sa part de soutien. Alors on connaît un peu les Corinthiens, ils étaient tout le temps en train de se chamailler sur leurs droits. Chacun, voilà, voulait parler plus haut que l'autre. Mais Paul, dans ce texte, nous donne 4 arguments pourquoi il est important de reconnaître les droits de ceux qui sont dans le ministère et les droits qui étaient pour Paul. Tout comme n'importe quel autre travailleur. Premier argument, vous l'avez peut-être remarqué, il fait la logique de la comparaison. C'est les 6 premiers versets. Et Paul le fait de façon habile avec des questions. Pas pour se justifier, mais pour poser les bases. Il dit, en gros, si Pierre, et les autres apôtres peuvent vivre dans leur ministère, pourquoi pas moi ? Paul compare son ministère aux autres apôtres, aux autres enseignants. Et il donne pour preuve que son ministère a été fructueux parmi eux. Vous êtes le sceau, il y a eu un fruit. Vous êtes témoin de que j'ai été loin du Seigneur pour vous parler de sa part. Vous authentifiez mon ministère. Tout comme Pierre et son épouse sont soutenus, sont accueillis dans le ministère, est-ce que moi, en tant que Paul, ne puis-je pas revendiquer, reconnaître que j'ai des droits pour mon propre ministère parmi vous ? Voilà sa défense. En fait, c'est l'argument de l'égalité, le principe d'équité. Vous faites cela pour eux, c'est la même chose pour moi. Paul soutient qu'un serviteur du Seigneur devrait avoir des mêmes droits que tout travailleur dans ce même domaine respectif spirituel. C'est un peu comme dans une entreprise. Alors, malheureusement, l'image, elle n'est pas parfaite. Si tu fais le même travail que tes collègues, au même titre eux, tu as normalement les mêmes droits, aux mêmes avantages, pas plus, pas moins. Si tout le monde est payé de la même façon dans un secteur avec le même niveau de diplôme, tu devrais avoir la même rémunération de l'autre côté. Bon, on le sait que dans ce monde... principe d'égalité, d'équité, n'est pas tellement que ça. On parle souvent des femmes qui font le même travail et qui sont payées moins. Voilà, bref. Mais c'est le principe que Paul il est en train de démontrer. Puisque c'est le principe d'équité, puisque ces serviteurs du Seigneur bénéficient d'un soutien de votre part, pour ma part c'est pareil, j'aurai ce droit d'être soutenu par vous. Donc ça c'est le premier argument, la logique de la comparaison. Le deuxième argument qu'il va donner, c'est le bon sens de l'expérience humaine, et c'est le verset 7. Qui donc sert dans une armée à ses propres frais ? Qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit ? Qui prend soin d'un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau ? Là, on a toutes les belles, là on a les images, là ça nous parle. Hein. Un soldat engagé dans une armée va pas acheter ses propres armes et ses propres munitions. Vous êtes pilote de chasse de l'armée française d'un Rafale. Avant de le conduire, vous n'allez pas avoir besoin de l'acheter, de je sais pas combien de millions il coûte, pour pouvoir le piloter et servir l'armée française. Thierry et Sandrine, j'imagine vous avec votre champ de fraises, vous pouvez goûter les fraises que vous plantez, au moins pour vérifier si c'est le bon moment de la récolte. C'est logique. Le cheminot, on sait, il a des avantages, ceux qui travaillent à la SNCF. C'est logique, il a la possibilité d'utiliser le train. Le principe du bon sens. Et je trouve que les métiers que Paul, d'ailleurs, une petite parenthèse, que Paul souligne, ils sont beaux. Parce que les 3 images du soldat, du cultivateur, du berger, c'est 3 images qui sont employées dans la Bible pour parler de celui qui sert l'Église, qui sert les chrétiens. Alors si ces ouvriers de la vie terrestre vivent de leur travail, pourquoi pas les serviteurs de Dieu ? Voilà son argumentation, voilà son droit. 3e argument, la justice de la loi de Dieu. On voit ça des versets 8 à 13. Et Paul se tourne vers la loi de Moïse. Que dit Dieu ? Alors il va utiliser des écrits de l'Ancien Testament, le Deutéronome 25 notamment. On ne met pas, on connaît un peu cette image, enfin j'imagine, on ne met pas de muselière au bœuf qui foule le grain pour vous. Donc c'était voilà un bœuf qui tournait pour écraser, pour récupérer la farine, enfin pour séparer le grain de la paille. Bah on lui mettait pas une muselière, il avait la possibilité de manger de ce qu'il était en train d'écraser. C'est cruel et injustifié de priver un animal du fruit de son travail. Ça c'est la parole de Dieu. Et Paul l'applique à ce principe, à ce ministère spirituel. Si Dieu a ordonné cela pour les animaux, pourquoi ne pourrait-il pas l'appliquer au serviteur que je suis de la parole ? Paul voit dans ce commandement un principe de justice, de miséricorde que Dieu a souhaité. Moi, Paul, j'ai semé, j'ai travaillé spirituellement parmi vous, il est donc normal, et Dieu l'a voulu, pour qu'il y ait une compensation. Un salaire en quelque sorte. C'est une question de logique et de bon sens, de justice. Et il va même développer avec le verset 13, où il va parler des sacrificateurs dans le temple. Vous savez, les qui servaient au temple, ils n'avaient pas le droit d'acheter de terrain. Ils n'avaient pas le droit d'avoir leur propre terre. Ils étaient soumis aux dons, aux offrandes du peuple qui rendait au culte, au temple. Ils avaient le droit de prendre une certaine part des offrandes. Ils avaient le droit de prendre un morceau de la cuisse du bœuf qu'ils étaient en train de sacrifier pour l'Éternel, pour leur famille. C'est la parole de Dieu qui le dit. Un problème de justice. Les prêtres et sa famille recevaient une part sur le sacrifice. C'est donc un droit dont Dieu, dans sa parole, a donné que ceux qui servent le Seigneur reçoivent une part de ceux qui sont servis. C'était le troisième argument. Le quatrième argument, verset 14. L'autorité des enseignements de Jésus. Je relis le verset 14. De même aussi, le Seigneur a prescrit à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. La raison pour soutenir le ministère de Paul, l'ouvrier de Dieu, provient de l'autorité des enseignements de Jésus lui-même. Et là, c'est la raison la plus importante pour Paul. On a peut-être tous en tête où Jésus, à deux occasions, il a dit à ses disciples, on le voit ça dans Matthieu 10 et dans Luc 10, il envoie ses disciples en mission pour témoigner de lui, pour renseigner, et il leur dit « Allez-y sans rien et comptez sur la générosité de là où on va vous recevoir, du repas qu'on va vous offrir, de l'hospitalité. » Alors bien sûr, c'était un principe de l'époque, mais c'était un principe que le Seigneur a montré. De ses disciples en mission, ils étaient dépendants de la générosité de ceux à qui ils allaient enseigner. Quatre arguments. Là, c'est quatre raisons, quatre droits tout à fait légitimes pour lesquels Paul aurait pu réclamer son salaire, sa part. Il a le droit d'être soutenu. Et derrière cela, c'est ce que Jésus a dit, hein, l'ouvrier, tout ouvrier mérite son salaire. Donc, il est question de façon large. Il défend sa légitimité que l'église de Corinthe puisse pourvoir aux soins de son ministère. Mais on l'a entendu, il n'utilise pas ce droit-là. Il n'utilise pas ce droit-là. Alors un premier enseignement qu'on pourrait ressortir de cela, il est de la responsabilité, du devoir de l'église de réfléchir à la manière de soutenir ceux qui œuvrent pour le Seigneur. Les serviteurs que Dieu a confirmés. C'est à nous de reconnaître ceux qui servent, qui se consacrent leur vie à l'annonce de la parole, à l'annonce de l'évangile. Alors oui, on peut prier pour que Dieu envoie des ouvriers dans sa moisson, mais il est tout aussi important de les soutenir. Et là, c'est du concret. C'est comme si tu priais pour un ami qui cherche du travail, mais que tu n'es pas prêt à l'aider concrètement quand il en a besoin. Les deux vont ensemble. Oui, on veut prier pour que Dieu envoie des ouvriers, mais on veut être aussi prêt à les soutenir. Un deuxième aspect qui me vient, parce que là, Paul, il est en train de présenter, voilà les droits. Et je me pose, nous, parce que voilà, là, il est question du ministère, mais quels sont nos droits à chacun ? Il y a des droits légitimes, hein, c'est des droits tout à fait légitimes présentés par la parole de Dieu, qui de bon sens. Mais parfois, il faut savoir aussi les mettre en question, les ajuster par amour et pour l'intérêt de l'autre. Moi, je crois que ce texte aussi est une invitation à nous de réfléchir à la manière dont nous gérons nos droits, dans nos relations. J'ai des droits. En tant que père de famille. J'ai des droits en tant que responsable dans un travail. En tant que responsable. Dans une église. En tant que parent. En tant que retraité, on a des droits. En tant que grand-parent dans une famille, on a des droits. En tant qu'homme, on a des droits. En tant que femme, on a des droits. Que faisons-nous? Paul avait des droits, mais vous l'avez peut-être entendu, dès ce verset 12, alors qu'il est dans la défense de ses droits, il dit « Si d'autres exercent ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons pas recouru à ce droit. Au contraire, nous supportons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. » Paul nous dit qu'il renonce, qu'il est prêt à renoncer à ses droits afin de pouvoir être utile à son message, d'être utile au ministère, utile à la bonne nouvelle qu'il partage. C'est son choix. Il est motivé par ce désir de ne pas faire de barrière. Il veut que chacun des êtres humains soit sauvé. Il veut que l'évangile avance. Il veut que son message progresse beaucoup plus que son confort personnel soit préservé. Et ça, c'est la pensée centrale qu'on a depuis deux chapitres. De voir, c'est plus important l'autre, c'est plus important le salut des autres que mes propres droits. Je dis non à certains privilèges par amour et pour le bien de l'autre. Alors oui, j'aurai le droit d'être soutenu, on l'a vu, les autres le font, la loi le dit, le Seigneur l'encourage. Mais je ne l'utilise pas. Et ça, c'est le développement de toute la deuxième portion de notre chapitre 2. Reconnaissez que j'ai des droits? Et dans la deuxième partie, il dit quoi? Mais renoncer à ses droits pour le bien de notre prochain, pour servir notre prochain. On voit ça des versets 15 à 27. Quand on parle de renoncer à ses droits, moi je trouve que c'est une notion qui peut paraître totalement contre-intuitive. Je le disais tout à l'heure, on nous enseigne dans un monde à revendiquer ce qu'on mérite, à défendre nos droits. Et Paul, ici, va à contre-courant de cette idée. Dans son ministère à Corinthe, Paul a fait le choix de renoncer à son droit d'être soutenu par cette église. Et on le lit dans Actes 18, quand il est à Corinthe. Qu'est-ce qu'il va faire? On le sait, Paul, il a été fabricant de tentes. À ce moment-là, il a fabriqué des tentes. Mais pas que. Il revendique ce droit de ne pas être soutenu. Et dans 2 Corinthiens, il va le dire plusieurs fois. Dans sa deuxième lettre, il va vous le rappeler. Mais rappelez-vous, je n'étais pas soutenu par vous. Pourtant, il a refusé le soutien de Corinthe, mais il a accepté le soutien d'autres églises. Il n'a pas hésité. Comme des églises de Macédoine, on voit ça dans d'autres passages. Mais il explique que sa décision de ne pas recevoir de soutien de cette église, c'était par amour pour eux. C'était un acte volontaire pour éviter tout obstacle à l'évangile. Alors probablement que culturellement, il s'est dit, là, il vaut mieux que j'y aille mollo. Alors pourquoi a-t-il fait cela? Et je trouve que dans ce passage, il va nous donner 3 éléments pourquoi il renonce à ce droit. Premier élément, c'est assez naturel, on le voit, mais c'est pour faire avancer l'évangile. Les versets 15 à 18, je trouve que c'est un passage très fort. En fait, Paul nous dit qu'il renonce à ce droit pour quelque chose de bien plus grand. Il veut annoncer l'évangile, ce beau message, gratuitement. Pourquoi? Parce qu'il sait que ce message, il est gratuit. Il est gratuit, on n'a aucun mérite. Et il en est fier de pouvoir le faire. Il parle même d'une nécessité qui m'est imposée, verset 16. Fin du verset 17, il parle que c'est une charge qui lui est imposée de l'annoncer gratuitement. Pour l'évangile, il est prêt à tout lâcher. Le message est tellement important. Il est prêt à lâcher ses droits. C'est tellement important. Et là, il l'évoque clairement quand il défend cela, son appel qu'il a eu du Seigneur. Il a eu un appel spécifique, on le reconnaît. Paul a rencontré Christ sur le chemin de Damas. On voit ça dans 3 fois dans les Actes d'ailleurs, où 3 fois il raconte cet épisode. Et c'est fort ce que Dieu dit de Paul. Paul, il dit, cet homme sera un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs et aux israélites. Ça, c'est un homme que j'ai mis à part. Paul, il est conscient de cet appel sur sa vie. Il se dit, mais moi, j'ai une grâce. J'étais un persécuteur. J'étais quelqu'un qui était rebelle à Dieu. Dieu m'a rencontré. Et bien, moi, je peux que l'offrir gratuitement parce qu'il m'a rencontré gratuitement. J'avais rien fait pour rencontrer le Seigneur. Au contraire, il m'a arrêté. Et quand on lit l'histoire de Paul, on voit que cette mission qui lui tenait tellement à cœur d'annoncer cette très bonne nouvelle, rien ne l'a arrêté, rien ne l'a dissuadé. Il a été inarrêtable, on pourrait dire. Alors, il y a eu des persécutions, il a été rejeté, il a dû fuir, enfin bref, il y a eu des problèmes dans les églises, enfin bref, rien ne l'a dissuadé. C'était plus important. Il a choisi de partager l'évangile sans se soucier de sa propre rémunération, parce que l'essentiel pour lui dans Corinthe, c'était d'annoncer gratuitement l'évangile. Lui, le persécuteur, devenu ambassadeur, prédicateur de l'évangile. Et pour lui, voilà sa récompense suffisante. Alors oui, Paul a un appel spécifique, un rôle unique. Dieu l'avait choisi pour porter son nom comme un instrument. D'être ce héros, enfin, pas le héros, voilà, le héros, celui qui parle en son nom. Pas pour de l'argent, mais pour la gloire de Dieu. Alors on pourrait se dire, et pour nous? Oui, on a un appel, on veut. Est-ce que c'est vraiment plus important, le message de l'évangile, que nos droits? On a des dons différents, on a des appels particuliers, on l'avait évoqué dans les passages qui précèdent. Hein. Tous ne sont pas évangélistes, tous ne sont pas appelés à servir à plein temps, tous ne sont pas appelés à servir gratuitement comme Paul. Mais néanmoins, Dieu souhaite que ce fardeau soit sur chacun de nous, qu'on soit toujours prêt à partager cette bonne nouvelle gratuitement, ce salut, en toute saison, favorable ou non. C'était le premier élément. Deuxième élément qui fait qu'il appelle à renoncer à l'argent et aux droits, c'est l'intérêt des autres. On l'avait déjà entendu, c'est en filigrane, hein, pour servir les autres. En effet, verset 19, bien que je sois libre vis-à-vis de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre. Esclave. Dans un monde où on cherche à être patron, ou au moins avoir le contrôle de ses droits et de ses libertés, Paul nous dit, si tu veux vraiment gagner les autres, commence par renoncer à toi-même. Je suis prêt à me faire l'esclave de mon prochain. Et là, on a des expressions qui sont fondamentales dans la vie du chrétien. Je dis rien de nouveau, on les a déjà entendues. Et c'est vrai, on est en Occident, on est fier de nos libertés, on est fier des droits de l'homme, notamment individuels. Et nous en retirons de vrais bénéfices de ces libertés. Mais la parole de Dieu nous invite toujours à nouveau à réaliser que maintenant nos vies appartiennent à Christ et que nos droits devraient être corrigés, revus, réfléchis. C'est pas mon service, mais c'est le service de Dieu, les intérêts de Dieu, les intérêts de l'autre. Mes priorités sont maintenant nouvelles. Soyons animés de ce sentiment qui était en Paul, qui était en Jésus-Christ. Et dans les versets 20 à 23, Paul présente cette liberté de rejoindre les autres. Rien ne doit faire obstacle. Je suis prêt à renoncer à mes droits. On pourrait se dire, est-ce qu'il est un peu un caméléon, hein? Est-ce que je vais me faire avec les juifs? Je vais aller avec les non-juifs? Celui qui est faible, je vais me faire faible? Est-ce qu'il va frelater le message? Non! Il n'y a pas de compromis. Mais il met en place des ajustements pour mieux les rejoindre, pour mieux communiquer l'évangile en face de la personne. Parce qu'il a l'intérêt de l'autre. Moi, ce qui m'a beaucoup touché dans ce texte, il y a 5 fois le mot « afin de gagner l'autre ». Afin de gagner le juif. Afin de gagner le faible. C'est afin de le rejoindre. C'est afin de que sa préoccupation devienne la mienne. Mon désir, c'est l'intérêt de l'autre avant le mien. Il est plus grand que tout. Moi, je me suis dit, c'est un peu comme l'image d'un entraîneur ou d'un coach sportif qui, il a toute une équipe, au lieu de demander à ses joueurs de faire tous le même programme standard, il adapte son approche à chacune des personnalités. Il change pas les règles du jeu, mais il ajuste sa méthode pour que chacun puisse atteindre l'objectif de faire cette équipe cohérente. Et c'est un peu ça. Paul n'est pas en train de rogner sur la vérité, non. Il est prêt à mettre ses droits de côté pour rejoindre. Il accepte certaines coutumes culturelles pour rejoindre son prochain. Parce qu'il est soumis à la loi de Christ. Et c'est quoi la loi de Christ? C'est la grâce, c'est le gratuit, c'est le immérité, etc. Moi j'aime beaucoup parce qu'on revient à Athènes, quand il prêche à Athènes, on voit qu'il a eu 3 publics différents. Il a été dans une synagogue, il a utilisé la parole de Dieu pour les rejoindre. Il a été sur la place publique. Bah là, il a été un peu philosophe, il est rentré dans des réflexions. À un moment donné, il était à, vous savez, dans l'aéropage, On pourrait dire c'est la Maison Blanche, hein, voilà, c'est la cité d'Athènes, c'est l'endroit où les choses se décident et se passent. Ben on voit son discours éloquent, réfléchi. Il le fait afin de gagner les uns et les autres. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Et je fais cela à cause de l'Évangile, afin d'avoir part à ses bénédictions. On pourrait se dire, je prends juste l'exemple, il se fait juif pour les juifs. Mais il est juif. Il est juif. Ah, il, à d'autres endroits, il va le revendiquer. Que j'aurai tous les droits de... Non. Pour lui, c'est plus important. Il sait, son identité, elle est nouvelle. Une vie nouvelle. Né de nouveau, nouvelle création, je suis mort, ma vie est cachée en Christ, je suis déjà assis dans les cieux célestes, j'ai une nouvelle citoyenneté, je suis membre de la maison de Dieu, je suis citoyen des cieux, j'ai une nouvelle famille, j'ai une nouvelle identité. Alors toutes les autres identités que ce monde peut donner est relativisée, mais je veux rejoindre l'autre parce qu'il est important et parce que j'ai un message de grâce, d'amour, de restauration, voilà, qui peut toucher les gens. Je veux toucher les gens. Alors si nous voulons toucher les gens, soyons prêts à les comprendre, à les rejoindre, avant peut-être de leur parler. Et je crois que Paul, il a suivi l'exemple de Jésus. Jésus, il a pas fait simplement, il est allé chez les gens, il a tapé sur l'épaule, et il leur a dit, voilà ce que je vous annonce, toujours le même discours. Non, on le voit, quand on vous lisez les évangiles, on voit qu'il a agi de façon très différente. Il a parfois pris un repas, il s'est peut-être assis, il a un peu fait la sourde oreille avec certains. Jésus était prêt. Jésus a fait face à plusieurs publics, mais il a eu des approches différentes, mais il a eu le même cœur que l'autre était plus important que soi. Il savait rejoindre les autres dans leurs différences. Il a quitté sa gloire auprès du Père et il a renoncé à ses droits pour venir. Ça, c'est le principe de l'Évangile. Il est devenu un homme. Il s'est humilié jusqu'à la croix. La manière d'agir de Jésus avec ses contemporains a fait grincer dedans ceux qui se croyaient religieux. On le sait, hein. Ça a choqué certaines conversations. Mais Jésus a rejoint. Il a pas noyé son message. Il était toujours cohérent. Mais il savait comment les rejoindre. Parce que bien sûr, c'est Jésus et qui connaissait le besoin du cœur. Jésus a rejoint chacun. Paul désire de la même façon rejoindre chacun. Et on a juste besoin de réfléchir comment Dieu nous a rejoints. On a tous. Ça, c'est le privilège des fois d'être pasteur d'une église. On a l'occasion d'entendre les témoignages des uns et des autres. On a tous été rejoints d'une manière très spécifique, liée à notre circonstance de vie, liée à notre parcours, liée à nos sensibilités, liée à nos rangs. Voilà ce qu'on est. Dieu nous a rejoints. Il n'a pas fait que de la même façon. Troisième élément pour lequel Jésus est prêt à renoncer, Paul est prêt à renoncer à ses droits parce qu'il a un objectif qui est devant lui, qui est éternel. On voit ça dans la fin de notre passage, hein, pour viser le but ultime. Et là, c'est un autre principe de la vie chrétienne que Paul montre. Paul parle de discipline, il utilise une image du sport qu'on connaît chez Paul, hein, qui est connue des Corinthiens, parce que les Corinthiens accueillaient non pas les Jeux Olympiques, mais les Jeux Ismiques, voilà où tous les je sais pas combien d'années, il y avait une grande compétition de sport. On imagine très bien l'athlète pour préparer sa course, pour remporter une médaille, il sacrifie sa vie, son temps, son loisir, se lève tôt, travaille dur, ne mange pas n'importe quoi, etc. pour gagner. Il est prêt à tout pour des sacrifices éphémères. À combien plus forte raison, nous dit Paul, je suis prêt à renoncer à mes droits parce qu'il y a bien quelque chose de bien plus important, un trésor bien plus important. Paul veut remporter le prix. Ce que tu fais pour Dieu, ça vaut bien plus qu'une médaille, qu'une couronne impérissable. Quand on pense aux athlètes du temps de Paul, c'est pas pour des millions de dollars que font les courses. C'est pas pour des milliers d'abonnés sur son compte Instagram ou je ne sais pas que ces stars font. Mais on le sait, c'était une couronne tressée, non pas en or, mais d'olivier ou de tiges de céleri. C'est quelque chose de plus périssable que ça, il n'y a pas, hein. Mais il le faisait. Mais Paul, il dit, non, nous, on court pour quelque chose de beaucoup plus éternel, impérissable. Vous voulez être utile. Je veux être utile entre les mains de son Dieu. C'est l'image de l'athlète qui ne vit pas pour l'instant présent, mais pour un but qui passe par-dessus toute sa préoccupation du quotidien. C'est le seul objectif qui vaille la peine. C'est d'aller jusqu'au bout de la mission. Peu importe les sacrifices. Peu importe si je dois renoncer aujourd'hui, maintenant, à certains de mes droits. Paul nous encourage à ne pas courir pour un trophée du maintenant. Alors c'est vrai que si je revendique mes droits, ça peut être clinquant, mais d'avoir un objectif au bout. Alors pour nous, est-ce qu'on est sur une piste de course à fond? Ou est-ce qu'on est en train de courir dans la vie chrétienne et on prend le temps de prendre des photos? Vous êtes peut-être un coureur, mais vous êtes mis dans les gradins. Et vous observez ceux qui courent et vous dites « Oh, la vie chrétienne, c'est pas ça. Ah, ils courent pas comme il faut. Ils devraient pas faire ceci, ils devraient pas faire cela. » Non, Paul, il dit « On se met dans la course. On fixe ensemble cet objectif de plaire au Seigneur. » Moi, je trouve que c'est fort que Paul, pas évident, hein, Paul, il parle de lui, il parle de son exemple de ministère, mais il dit « Bien que je dispose de droits, je choisis d'y renoncer par amour pour l'autre. » Et l'évangile. L'autre est plus important. Le message que j'ai est beaucoup plus important. Alors qu'est-ce qu'on fait de ce principe? Pas facile. Chacun qui désire plaire au Seigneur, on se dit, mais de quels sont les droits que j'ai besoin, je dois renoncer? Qu'est-ce que je dois renoncer? Quel renoncement je suis appelé à faire pour le bien de mon prochain? La question n'est pas simple. Parce que chacun de nous, on a un style de vie différent. Chacun de nous, je le disais tout à l'heure, on a un appel de vie différent. D'ailleurs, il suffit de regarder comment dans la parole de Dieu, Jésus avait une vie différente que celle de Jean-Baptiste, et tous les deux ont honoré le Seigneur. Paul avait une vie différente de celle de l'apôtre Pierre. Mais le principe est là. Voir l'autre plus important que soi. Et je pense que bien des difficultés seraient évitées dans nos vies, dans nos foyers, dans nos relations, dans nos églises, si ce principe de l'évangile était vu, de voir l'autre, les intérêts de l'autre avant les miens. Pas facile à dire, hein. Alors, on doit éviter deux extrêmes. Dans l'histoire de l'église, pas de notre église, mais on connaît qu'il y a des extrêmes. Des gens qui ont tout abandonné, qui sont fait pauvres, qui sont même plantés au bout qui sont fait ermites au bout d'un, voilà, sur une plateforme à je sais pas combien de mètres de hauteur. Des vies de renoncement parfaitement inutiles entre les mains de Dieu ou pour le bien de son peuple. Il y a des sectes qui se retirent du monde. C'est inutile. Et de l'autre côté, c'est l'autre extrême de se dire, non, ben, j'ai des droits, c'est un peu comme un apocalypse, t'es ni froid, ni bouillon. Je refuse tout sacrifice, j'oublie de combattre le bon combat de la foi. La vie chrétienne n'est pas pour le paresseux. Ces deux extrêmes, c'est pas évident de vivre de cette manière équilibrée, tout en sachant qu'on rencontre nos droits, et que ça nous tient à cœur, notre moi, hein, quelque part, et nos libertés. Que faisons-nous? Est-ce que j'ai des droits et je suis prêt, parfois, de temps en temps, dans certaines situations, à y renoncer, parce que c'est plus important que la relation avec l'autre, ou mon désir de partager l'évangile. J'aimerais laisser quelques applications très concrètes. Ça va peut-être un peu rebondir avec ce qu'on a déjà entendu tout au long, mais premier élément, c'est renoncer à ses droits. Si tu fais un travail, que ce soit dans l'église, au travail, dans ta famille, sois prêt à donner sans rien attendre en retour. Choisis de renoncer à certains droits ou à tes droits par amour pour l'autre. Dans un couple, ça pourrait, par exemple, renoncer à ses propres attentes, à son propre confort, pour faire plaisir à l'autre. Dans la discrétion de tes sacrifices, vise des fruits plus grands pour le Seigneur, dans la vie de l'autre. Le vrai héros, j'aime beaucoup cette phrase un peu choc, ne compte pas leurs sacrifices, il les multiplie. Il est prêt à se sacrifier pour que d'autres puissent se lever. Je disais, renoncer, c'est être là aussi où les gens ont besoin d'être écoutés. Là, on rejoint Paul, se fait juif, etc. Est-ce que je suis sensible aux besoins spirituels de l'autre qui est à côté de moi? Parce que vouloir rejoindre l'autre, c'est que je suis prêt à l'écouter. Quand tu rencontres quelqu'un qui ne partage pas tes croyances, évite de lui balancer un discours de, je sais pas combien, à 100 à l'heure, là. Sois attentif à sa réalité, à sa vie. Comprends son monde. Cherche, écoute-le, comprends sa culture, comprends ses questions, comprends son raisonnement. Essaie de chercher quelles sont ses souffrances, ses doutes, afin de lui partager ta foi et ton espérance. Je crois que pour parler de l'évangile, on a besoin d'écouter la souffrance de notre monde. C'est ça aussi renoncer, c'est d'être prêt d'abord à prendre le temps de connaître l'autre. bien évidemment, c'est de faire de l'évangile notre priorité. Ce qui doit être le plus important sur nos cœurs, c'est que le nom du Seigneur soit glorifié. Ça peut passer, bien sûr, plus de temps à prier, plus de temps à servir, que peut-être nous concentrer sur nos loisirs ou notre confort personnel, parce que c'est ça aussi. C'est un droit, bien sûr, j'ai un droit de me reposer. Mais peut-être que par moment, il est peut-être intéressant de prier pour telle ou telle situation, ou de servir parce qu'il y a tel ou tel besoin, pour soutenir un frère, pour soutenir un projet missionnaire. On pourrait renoncer à tout un tas de choses. Et je sais, on a une sortie missionnaire là prochainement. Mais peut-être c'est de se dire, bah, au lieu d'aller aller les 10 € que je mets pour le cinéma pour ce mois-ci, je vais les mettre pour ce voyage en Ukraine. Bon, c'est 10 €, mais le Seigneur, il multiplie. C'est un choix. Vous allez voir que dans notre prochaine AG là, dans l'église, avec le conseil d'administration, on vous propose d'augmenter un peu nos soutiens missionnaires, de revaloriser un peu leur salaire, leur soutien, pardon. Parce qu'on a ce désir de rayonner, parce que l'évangile, les ouvriers, c'est plus important, c'est notre priorité. C'est une priorité. Bien sûr, quatrième élément, vivre une discipline qui compte, comme un sportif, hein, on s'entraîne, on a un but, on doit se discipliner, on doit peut-être voilà faire des choix, on doit se conditionner. Ça demande de la constance, de l'effort. Peut-être, c'est vrai, ça coûte de s'engager régulièrement dans un groupe de maison, de se dire que tous les 15 jours, je vais prendre du temps avec des frères et sœurs à écouter la parole de Dieu. Mais ça nous c'est une discipline, mais ça nous encourage, ça nous renouvelle, ça nous aide à garder le cap. Bien sûr, c'est ne pas être aussi un obstacle à l'autre. C'est ce que Paul il dit, hein. Moi, j'ai renoncé parce que je veux pas être un obstacle pour vous. Peut-être qu'on doit apprendre à laisser certains de nos choix, de nos envies, de nos priorités, de nos préoccupations, qu'elles ne soient pas des freins à l'autre. C'est peut-être refuser de manger une friandise parce que on sait que notre ami lutte contre une addiction au sucre. Je rigole, mais voilà. Par amour, renonce à quelque chose, mais qui pourrait nuire à l'autre. Et bien sûr, finalement, ce qu'on voit dans le chez Paul, c'est vivre pour la gloire de Dieu. Ce qui est plus important, c'est le royaume de Dieu. Est-ce que ça glorifie Dieu dans mon travail, dans mes relations, dans mes loisirs? Ta vie doit être un reflet de ce ministère. Ma liberté, je suis libre, mais c'est plus important d'honorer Dieu et d'honorer mon prochain. Amen.